Bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui à Barcelone. Je suis parti hier sous la pluie, le froid, et aujourd'hui je vois la Sagrada Familia sous le soleil, la ville de Gaudí. Je revois José Ballarín et Roser Torra, et je fais connaissance avec vous et j'en suis très heureux.
Dice que está muy contento de estar en Barcelona, que después de dejar Bruselas, yo viendo que el tiempo aquí es fantástico y ver la Sagrada Familia y la obra de Gaudí y a todos nosotros con sol, pues fantástico.
Alors vous avez remarqué que je ne parlais pas espagnol, mais j'ai heureusement deux béquilles. Une, ce sont mes dias traduites en espagnol par Marie-Carmen Caballero et sa nièce, et je les en remercie. Et l'autre, c'est Roser qui va traduire mon propos.
Eso, que no habla español y Carmen Caballero ha traducido las diapositivas y yo voy a intentar traducir lo que diga.
Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie la plus fréquente, la polykystose rénale, et l'exposé, je suppose que ça c'est pour faire passer les
slides. La polykystose, que es la enfermedad más frecuente.
C'est pas tout à fait correct. Alors c'est ça? Oui, voilà. L'exposé, ce sera d'abord un petit rappel sur la maladie polykystique et ses manifestations cliniques. Et puis, nous verrons comment on a conçu les médicaments qui sont aujourd'hui en phase d'essai clinique. Et nous verrons, troisième partie, c'est pour cela que Roser m'a invité aujourd'hui, où nous en sommes, le stade actuel des études cliniques.
Vamos primero a ver brevemente un poco qué es la polikistosis y luego pasaremos a ver cómo están actualmente los ensayos clínicos para el tratamiento de la misma.
Alors, d'abord, la polykystose, je ne vous apprends rien en vous disant que ce sont des kystes qui se forment à partir du tubule rénal. Ceci représente un chromosome où il y a une mutation qui est la mutation... Ah ben, là, il faut que je fasse attention. La mutation PKD1 ou PKD2, c'est ce qu'on appelle la mutation germinale qui se trouve dans toutes les cellules. Et dans 1% des néphrons, souvent très tôt dans la vie, il y a deuxième mutation, qui est la mutation somatique. Voilà.
Sí, ¿no? Vale, esto lo de la derecha es un quiste renal, y vemos a la izquierda un túbulo renal, y estos dos palitos que hay con una redondita en medio representan los dos genes de la poliquistosis, donde uno de los dos está alterado. Y esta alteración, que sería a partir de una célula de estas alterada, que se empiezan a ver más células, a proliferar, y aparece el quiste.
Oui. Alors, a partir de la deuxième mutation qui s'appelle somatique, on a donc une prolifération et, deuxième point, une sécrétion de liquide à l'intérieur du quiste. Et les médicaments dont on va parler, ce sont des médicaments qui vont essayer de s'opposer à la prolifération et ou de s'opposer à la sécrétion.
En la segunda imagen podemos ver como en vez de haber solo uno de los dos palitos con una redondita, están los dos. Esto quiere decir que además de la mutación que tienen todas las células del organismo, ha aparecido una segunda mutación que es la somática, que le llamamos. Y cuando hay estas dos mutaciones es cuando se vuelve, digamos, loca la célula y crece. Y además de crecer, bueno, aparecen los quistes y hay una secreción de fluido. Y sobre este crecimiento y esta secreción de fluido es sobre lo que van a actuar los fármacos de los que va a hablar posteriormente.
Alors, les quistes, ils se forment où? Dans le rein et dans le foie. Alors, les manifestations de ces quistes dans le rein, qui peuvent faire grossir le rein d'une façon considérable, on vous a rappelé tout à l'heure que c'était à peu près 150 grammes, il peut peser plusieurs kilos.
Primero va a hablar de la afectación renal, de la poliquistosis. En medio vemos un riñón normal que pesa unos 120 gramos y de esto pasamos a unos riñones muy grandes que pueden llegar a pesar hasta 5 kilos.
5 conséquences de la présence des kystes dans le rein. D'abord, l'hypertension, la manifestation la plus précoce parce que les petits vaisseaux sont dans les parois des kystes.
La présentation plus précoce est la hypertension, est quasi constante et se debe à la affectation par les vasos, par la déformité que les produisent les kystes.
Ces petits vaisseaux peuvent se rompre et saigner, c'est l'hémorragie intrakystique, 50% des patients le font.
pueden romperse estos quistes y hacer una hemorragia intraquística. El 50% de los casos de pacientes lo hacen.
Des calculs rénaux à cause de la stase chez un patient sur cinq environ.
Si uno de cada cinco pacientes, debido a la anomalía estructural del riñón, pueden hacer piedras, litiasis.
Parfois une infection urinaire, une cystite, remonte dans le kyste et ça donne une infection kystique qui est parfois difficile à traiter.
A veces infecciones urinarias remontan hacia arriba, infectan el quiste y es un poco difícil de tratar a veces.
Et bien sûr, ce contre quoi nous essayons de lutter avec les nouveaux médicaments, l'insuffisance rénale chronique chez les trois quarts des patients habituellement entre 50 et 60 ans.
Y lo más importante, que es contra lo que queremos luchar, es la insuficiencia renal crónica terminal, que ocurre en el 75% de los casos entre los 50, 60, 70 años.
Alors, dans le foie, chez la plupart des patients qui sont atteints, aucun symptôme, jamais de symptômes durant la vie. Mais, chez une minorité de patients, et je devrais dire de patientes, car ce sont essentiellement des femmes, il y a, comme vous le voyez sur cet exemple, très peu de kystes rénaux, mais une multitude de kystes dans le foie qui parfois devient très très gros, devient une hépatomégalie kystique. C'est une minorité de femmes.
En la mayoría de pacientes con poliquistosis hay quistes en el hígado, pero no da ningún síntoma. Pero en una minoría de pacientes, casi todos ellos mujeres, hay una gran cantidad de quistes en el hígado y este se hace grande, es la hepatomegalia quística.
Alors, il faut reconnaître que jusqu'il y a peu, nous n'avions aucun traitement spécifique et que avec Pierre Rayet qui en 1841 disait la maladie quistique est incurable, eh bien c'était un peu le cas jusqu'il y a peu. Je pense que tout le monde a compris. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes devant ce schéma très compliqué. Vous vous dites, mais comment est-ce qu'on va s'y retrouver? Ou simplement, on va revenir sur ce schéma, mais grâce à la découverte des deux gènes de la polykystose et à l'expression de polycystine 1, c'est la protéine de PKD1, et polycystine 2, on connaît le chemin très compliqué qui va conduire à deux choses, à des signaux vers le noyau qui vont conduire à la prolifération et à des signaux de la sécrétion. On va revenir sur l'identification de ces chemins contre lesquels on va essayer de s'opposer par les médicaments qui sont repris sur cette diapositive, soit en brun, soit en vert.
Bueno, debido... No, que me lo sé. Debido a la alteración de la poliquistina 1 o la poliquistina 2, que son las PC1 y PC2 ahí, se produce una serie de anomalías, entre ellas una disminución del calcio intracelular, y esto da lugar a una cadena de señales entre las que hay una proliferación, como vemos en el núcleo celular, y por otra parte una activación de la secreción, la parte de arriba a la izquierda, y entonces hay una serie de fármacos. Los que están en naranja son los que están en fase de ensayo clínico y los que están en verde están en fase de investigación.
Voilà. Alors, bien sûr, il y a encore des médicaments pour demain et jusqu'ici, nous ne nous sommes pas croisés les bras. Hein. Les patients qui ont une polykystose savent que nous avons déjà amélioré leur sort par les traitements que vous pouvez citer, Roser, et qui se trouvent là, je ne vais pas les répéter.
A falta de un tratamiento específico, lo que hemos hecho durante las últimas décadas ha sido mejorar el tratamiento sintomático, por ejemplo, un mejor tratamiento de la hipertensión con IECAS y los ARA2, con antibióticos para las infecciones quísticas que van muy bien, las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino, digamos, y esta familia de fármacos, los aneurismas cerebrales, pues el tratamiento endovascular sin tener que operar, la poliquistosis hepática, bueno, tratamiento quirúrgico, aunque es sumamente complejo, y las mejorías en las técnicas de imagen que permiten mejoras para hacer un pronóstico o para determinar exactamente cómo está hígado y riñones.
Alors, c'est vraiment à partir de l'identification de ces deux gènes principaux de la polykystose, PKD1 et PKD2, ça c'est le gène de la polykystose récessive, qu'on a décodé les chemins conduisant au kyste.
A partir de la identificación de los genes PKD1 y PKD2 ha sido lo que nos ha permitido decodificar la cadena o la alteración celular, las alteraciones celulares que hay en la célula poliquística.
Ces deux molécules, polycystine 1 et polycystine 2, eh bien les voici représentées. Polycystine 1,
polycystine 1,
connexion avec la plus petite ici qui est polycystine 2.
Conectada con la poliquistina 2.
Alors, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont pêcher des signaux qui sont transmis à l'intérieur de la cellule. Donc il y a un signal qui est transmis à l'intérieur de la cellule.
Diríamos que la parte esta verde es extracelular, fuera de la membrana, recibe señales que transmite al interior de la célula.
Alors, c'est quoi ce signal? C'est
¿Qué son las señales? Pues,
probablement. Ici, vous voyez deux cellules tubulaires rénales avec le cil de la cellule. Et la polycystine 1 et la polycystine 2 sont dedans.
Esto es una célula y en la parte de arriba, esta colita que sale, es el cilio. Y tanto la poliquistina 1 como la poliquistina 2 se encuentran localizadas en estos cilios.
Alors on pense que ces molécules sont sensibles au flux d'urine qui se trouve là et que c'est le flux d'urine qui mécaniquement va transmettre un signal vers l'intérieur de la cellule.
Se hipotetiza y está bueno, bastante demostrado que estas poliquistinas son sensibles al flujo de orina en este caso que pasa por aquí y transmiten la señal por el interior del cilio hacia el interior de la célula.
Et le premier signal, c'est très probablement l'entrée de calcium dans la cellule.
Y probablemente la primera señal es la entrada de calcio dentro de la célula.
Alors, entre ceci qu'on vient de voir, c'est-à-dire le signal d'entrée du calcium dans la cellule et le résultat final, qui est le kyste, il est clair qu'il y avait un grand point d'interrogation.
Desde esta señal inicial que da lugar a la entrada de calcio intracelular hasta que aparece el quiste, claramente hay un camino que está por ver.
Eh bien, ce grand point d'interrogation aujourd'hui, le revoici, c'est le schéma que vous avez vu, avec des médicaments qui sont capables de s'interposer sur le chemin qui conduit de la quantité insuffisante de calcium jusqu'à la prolifération et jusqu'à la sécrétion, et on va revenir là-dessus.
El interrogante ese que hemos visto se desvela aquí en esta diapositiva, es esta toda esta cascada de señales, y estos que están en verde serían los que bloquean la alteración que se produce en esta cascada de señales.
Alors, dans tous ces médiateurs, en voici un qui est particulièrement important, CAMP, ça veut dire l'AMP cyclique.
El AMP cíclico sería uno de estos mediadores, sería el más importante quizás.
Quand il n'y a pas assez de calcium, ce taux d'AMP cyclique augmente dans la cellule.
No hay bastante calcio y aumenta el AMP cíclico.
Et probablement que c'est un signal fort pour conduire à un signal qui va conduire à la prolifération de la cellule.
Este aumento de AMP cíclico es una señal importante que conducirá a la proliferación celular.
Et on sait qu'on peut faire baisser le taux d'AMP cyclique en donnant, par exemple, un antagoniste d'un médicament qui le fait monter. La vasopressine, va aller dans le tube rénal, augmenter le taux d'AMP cyclique, et on dispose d'antagonistes de la vasopressine. Donc on peut faire baisser le taux d'AMP cyclique.
Sabemos, un buen objetivo sería disminuir este AMP cíclico que está aumentado. Sabemos que la hormona vasopresina, o hormona antidiurética, hace aumentar el AMP cíclico y disponemos de unos fármacos que son los antagonistas de los receptores V2 de la vasopresina que bloquearían esta acción y disminuirían el AMP cíclico.
Là, c'est un inhibiteur de l'AMP cyclique qui fait donc baisser son taux. Et on peut donner un médicament qui va augmenter l'inhibition, qui va faire baisser le taux d'AMP cyclique. C'est la somatostatine.
La somatostatina también disminuiría el AMP cíclico por otra vía.
Alors, il y a un autre médicament dont on va parler après, qui est le sirolimus ou l'everolimus, qui agit ici, au niveau de la prolifération. Donc, ça agit plus tard.
À autre niveau, les inhibiteurs de mTOR, everolimus ou sirolimus, inhiberían la prolifération cellulaire.
Et il y a un médicament que je vous cite, mais que je ne décrirai pas, qui agit très tôt, lui, pour essayer de réparer l'entrée de calcium insuffisante, c'est le triptolide.
El triptolide, que no va a comentarlo, es una hierba china que lo que hace es intentar compensar este calcio intracelular disminuido.
Et donc, les médicaments dont nous allons parler aujourd'hui sont les antagonistes du récepteur de la vasopressine, le sirolimus, les vérolimus, les analogues de la somatostatine. Je ne vous parlerai pas du triptolide. Donc, encore une fois, voici les antagonistes du récepteur de la vasopressine.
Antagonistas del receptor de la vasopresina. Oui.
Ils ne sont exprimés que dans le rein. La vasopressine n'est exprimée que dans le rein, pas dans le foie.
Solo se expresan en riñón, no en hígado.
Tandis que les récepteurs pour la somatostatine se trouvent dans le rein et dans le foie.
Mientras que el receptor de la somatostatina se encuentra tanto en riñón como en hígado.
De même que mTOR, la voie mTOR se trouve dans le rein et dans le foie.
Y los receptores de mTOR también en hígado y riñón.
Donc ça c'est rapamycine, c'est sirolimus et vérolimus.
Sí, sirolimus y vérolimus, los inhibidores de mTOR.
Voilà, on va d'abord parler de ça et de ceci. Et je ne vous parlerai pas du triptoline. Alors, les antagonistes du récepteur de la vasopressine, commençons par là. On a, comme toujours, commencé par des expériences chez l'animal qui avait une polykystose.
Como siempre, vamos a empezar con los receptores de los antagonistas del receptor de la vasopresina y como todos estos fármacos, primero se inicia con experimentación animal.
Alors, voici des souris qui ont une forme de polykystose PKD2.
Unos ratoncillos que tienen una forma de poliquistosis tipo 2.
Alors ça, c'est l'état de la souris qui n'est pas traitée, dont le rein est plein de kystes.
Esto es un ratón no tratado, lleno de kystes.
Et le rein devient très gros.
Y se hacen muy grandes los riñones.
Mais si on traite ces souris par un antagoniste de la vasopressine, regardez, il y a beaucoup moins de kystes et le rein a une taille à peu près normale. Sí.
Y este sería el aspecto a la derecha de un ratón tratado con antagonista del receptor de la vasopresina.
Et il y a d'autres modèles animaux de polykystose dans le même sens. Alors, ça a paru suffisant que pour commencer un essai chez l'homme.
Esto fue suficiente evidencia para empezar un ensayo clínico en humanos.
Avec un antagoniste qui s'appelle le tolvaptan.
Con un antagonista llamado tolvaptan.
Et l'essai s'appelle TEMPO pour tolvaptan efficacy and safety in management in PKD and outcomes.
El ensayo clínico este, que es el más importante en poliquistosis, que quiere decir seguridad y eficacia del tolvaptan en el manejo de poliquistosis.
Y... Alors, l'essai dont peut-être des patients ici, je ne sais pas, ont entendu parler ou sont peut-être dedans, c'est l'essai 251. Où, je vais vous l'expliquer tout de suite, on a donné à des patients qui avaient une polykystose soit le tolvaptan, soit le placebo.
El ensayo más importante es el 25134, que son 1500 pacientes si se les da o tolvaptan o placebo.
Est-ce que je peux demander s'il y a dans l'assistance des patients qui
no,
sont
porque,
dans un essai clinique?
Non, Espagne n'est pas dans l'essai.
D'accord.
Non.
OK. Alors, je vais vous montrer comment on essaye de trouver la meilleure dose. Alors, comment on essaye de trouver la meilleure dose?
Comment consiguen encontrar la mejor dosis?
Mais c'est un médicament qui, en inhibant la vasopressine, qui est l'hormone qui concentre nos urines, va faire uriner de grandes quantités. Le patient qui en prend urine 3 litres, 4 litres, 5 litres, 6 litres.
Sí, es un medicamento que al inhibir la hormona antidiurética evita la concentración de orina y hace que se orine mucho, de manera que los pacientes que toman esta medicación orinan 3, 4, 5, 6, 7 litros al día.
Alors, on va essayer de trouver la dose qui va être tolérée et au-delà d'une certaine dose, ben, c'est beaucoup moins toléré parce qu'on urine trop. Et ici, c'est l'efficacité sur la concentration de l'urine, donc sur la dilution de l'urine, et on essaye de trouver ce qui est toléré et qui paraît efficace.
Exacto, buscan el punto ideal entre tolerancia y eficacia, no orinar excesivamente, pero que sea eficaz.
Et ça, on teste chez chaque patient. Et donc, l'essai 251, dont on va connaître bientôt les premiers résultats, c'est toujours en cours, a enrôlé à peu près 1500 patients en Europe, aux États-Unis, au Japon.
Aproximadamente 1.500 pacientes se han incluido en este estudio, que pronto finalizará al menos la primera parte.
Et cet essai prévu pour 3 ans va encore durer 2 ans de plus pour affiner les résultats. Donc, vous pouvez le dire mieux que moi.
Oui, sí, que este ensayo, bueno, primero ha dicho que las dosis se personalizan un poco por cada paciente, que es esto que está en amarillo, y también que este ensayo era inicialmente de 3 años, pero se va a hacer una extensión de 2 años, pero todos los pacientes tomando el tratamiento. Ya no habrá placebo y tratado, sino todos con tratamiento.
Donc cet essai, je ne peux pas encore vous donner les résultats puisque nous ne les connaissons pas encore.
Sí, no podemos dar resultados porque aún no se conocen. Está en fase aún de desarrollo.
Par contre, nous connaissons aujourd'hui les premiers résultats des essais qui ont été entrepris avec ce médicament antiprolifératif que ceux qui sont greffés ici connaissent peut-être, sirolimus et everolimus.
Sí, de lo que sí podemos hablar es de los resultados de los ensayos clínicos con sirolimus y everolimus, que algunos quizás de los que están aquí trasplantados los conocen, es el Rapamune y el Certican, fármacos utilizados en el trasplante renal.
Donc Rapamune, Certican, donc c'est les mêmes noms. Alors, la même chose, on se base sur une expérimentation animale. Voici un animal polykystique, peu importe le nom. Voilà à l'état normal son rein plein de kystes, et voilà si on lui donne de la rapamycine, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de kystes.
Lo mismo que antes, se empezó con modelos animales y vemos como en la primera parte un animal no tratado, vemos que tiene muchos quistes, y abajo un animal tratado, quistes mucho más pequeños y menos abundantes.
Et on peut le quantifier en mesurant le bord des kystes et en voyant qu'il y en a beaucoup moins chez les patients traités.
Sí, el volumen quístico a la derecha, pues también cuantificadamente es mucho menor en pacientes y en ratones tratados.
Est-ce que ça marche en clinique humaine? Eh bien, nous avons aujourd'hui le résultat de 3 essais cliniques.
Para saber si esto funciona en humanos, se han hecho 3 ensayos clínicos fundamentalmente.
Un petit essai, 21 patients, à Bergame, Italie. Un essai de 100 patients en Suisse et un autre piloté par Novartis, essentiellement en Allemagne, 400 patients.
Bueno, esto queda claro, el de Bergamo de 21, de Zurich de 100 y Novartis de 433.
Alors, ceci est une méthode différente des deux autres parce que là, on va chez le même patient avoir une période sirolimus, puis une période placebo ou l'inverse. Alors que ici, nous avons 2 groupes de patients. Certains reçoivent le sirolimus, d'autres le placebo.
El diseño del primer estudio es distinto de los otros, porque en el primero el mismo paciente primero recibe sirolimus y después placebo, o al revés. Y en los otros dos sería como lo del tolvaptán que hemos visto antes, o sirolimus, o everolimus, o placebo.
Alors, vous voyez que autre chose importante, ce sont des essais de courte durée. Ici, on va comparer 2 périodes de 6 mois. Ici, c'est un essai de 18 mois. Ici, c'est un essai de 24 mois.
Podemos ver que la duración no es muy larga. 6 meses y 6 meses el primero, 18 el segundo y 24 el tercero.
Alors, une autre différence, c'est que la fonction rénale, ça c'est le taux de filtration glomérulaire qui doit être supérieur à 90. Il est ici supérieur à 40, là supérieur à 70, mais ici c'est des patients qui ont une maladie rénale plus avancée.
Sí, podemos ver, esto es muy importante, la función renal que tenían los pacientes incluidos en este estudio. Lo normal sería superior a 90, pues en el primer estudio era superior a 40, en el segundo superior a 70, que es casi normal, y en cambio en el tercero una insuficiencia renal ya considerable, superior a 30.
Alors ici c'est de la Rapamune qui est donné à 3 mg par jour. Ici, c'est de la Rapamune donnée à 2 mg, mais on arrive en fin d'étude à une dose plus faible d'un milligramme et demi, donc c'est la moitié de ceci. Là, c'est du Certican.
Bueno, le premier et le second sont sirolimus à dosis de 3 et de 1,8, en réalité. Le second et le tercero everolimus, la dosis nécessaire pour obtenir les niveaux de 3 à 8.
Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le volume du rein. Et on regarde si, sous le traitement, la croissance des kystes est diminuée si le traitement parvient, comme chez l'animal, à diminuer le nombre et le volume des kystes.
¿Y qué es lo que miramos? Pues el volumen renal, en el primero con escáner y en los otros con resonancia. El volumen renal es indicativo del volumen de quistes.
Alors on va regarder les résultats d'abord de celle-ci, puis de celle-ci, puis de celle-là. OK? Alors, ici, c'est l'étude de Péricot, 21 patients, où il va comparer la période sirolimus à la période placebo et... Regardez que ceci, c'est le volume du le volume des kystes occupés dans le rein. Sous traitement placebo, il y a une augmentation normale, et sous sirolimus, c'est bloqué, c'est stabilisé.
Este es el estudio pequeño, el de 6 y 6 meses. ¿Eh? Aquí vemos abajo a la izquierda el volumen renal, cómo aumenta en los que no está, cuando no están tratados y se mantiene cuando están tratados.
Voilà. Donc, encourageant.
Bueno, positivo.
Dans l'étude des 100 patients suisses qui recevaient deux fois moins de rapamune, eh bien là, c'est au contraire un résultat décevant. Puisque, regardez, la ligne moyenne, peu importe l'échelle, la ligne moyenne des patients qui prenaient du sirolimus, c'est le volume rénal, et la ligne moyenne de ceux qui prenaient le placebo, aucune différence.
Aquí, el resultado de los suizos, vemos que no hay diferencia en el volumen renal entre los pacientes tratados y los pacientes no tratados.
Donc, à cette dose, pendant 18 mois, conclusion, ça ne marche pas.
Una dosis aparentemente suficiente, 18 meses, y no funciona.
L'étude la plus grosse, 400 patients allemands Novartis certificant.
El estudio más grande, el de Novartis, 430 y pico de dos años, en certificant.
La modification du volume total, donc son augmentation au cours du temps, au cours des semaines. Et vous voyez ici qu'après un an, eh bien... Le rein augmente moins sous everolimus que sous placebo, avec une différence significative sur le plan statistique. Mais, à deux ans, on voit que la différence s'atténue et qu'elle n'est plus significative.
Si vemos que este ensayo con everolimus, los pacientes tratados tenían un menor crecimiento, o sea, crecía, pero menos que los no tratados, y aunque a un año sí que había unas diferencias significativas, poco, 0,02, a dos años no había diferencias significativas entre los dos grupos.
Pourquoi? ¿Por qué? Bien, là, ça mérite une petite explication, parce que ça montre les limites d'études comme celle-là.
¿Por qué? Vamos a ver por qué, porque vamos a ver las limitaciones de estudios de este tipo.
À cause des effets secondaires dont on va parler, 30% des patients qui prenaient du sirolimus ont abandonné.
30% de los pacientes tratados con everolimus abandonaron el tratamiento por efectos secundarios.
Et s'ils abandonnent en chemin, néanmoins, on continue à les compter, à les prendre en compte pour le volume final.
C'est vrai?
Oui. Intention to treat.
Bueno, pues... Aunque abandonasen el tratamiento, los tenían en cuenta a la hora de contabilizar el volumen final.
Et donc peut-être est-ce que ceci est une des explications. Nous n'en savons rien. Alors que faut-il conclure d'une étude comme celle-là?
Que tenemos que concluir de un estudio hecho así.
Alors autre chose, on a regardé la fonction rénale sur une si courte période. Il y a dans les trois études aucune différence significative.
No hay diferencias en ninguno de los estudios sobre el funcionamiento del riñón.
Alors ça c'est l'efficacité sur les kystes. Il y a la tolérance.
O sea, además là, de la eficacia tenemos que ver la tolerancia y aquí vamos là, a ver qué pasa con la tolerancia.
On a trois problèmes au moins d'effets secondaires sérieux.
Tenemos tres efectos secundarios serios.
Alors, le premier, c'est que sous sirolimus et verolimus, on a une augmentation discrète, mais certaine, de l'albumine dans l'urine, ce qu'on appelle la microalbuminurie. Et c'est bien dû aux médicaments, puisque regardez, ça augmente sous médicaments, c'est le même sous placebo.
Sí, claramente, sin lugar a dudas, los pacientes tratados tienen una mayor pérdida de proteínas en la orina que los pacientes no tratados o en el periodo no tratado.
Alors, ça n'est jamais bon de déclencher une microalbuminurie par un médicament.
Esto no es nada bueno para el riñón. Un medicamento que nos da proteinuria no es bueno para el riñón.
Et une des conséquences probablement de la microalbuminurie, c'est l'élévation dans le sang du taux de cholestérol que l'on voit aussi du taux de cholestérol que l'on voit aussi clairement dans le groupe sirolimus et pas dans le groupe placebo.
Si una probablemente consecuencia de esta microalbuminuria, esta pérdida de proteínas, es el aumento de colesterol que claramente se ve en el grupo de tratados y no se ve en el grupo de no tratados o placebo.
Autre effet secondaire du médicament, c'est de donner des aftes dans la bouche et de donner des édèmes. Vous voyez ici, plus de la moitié des patients, un quart des patients.
Otros efectos secundarios frecuentes son la aparición de aftas, de llaguitas en la boca y edemas que se hinchan en los pies.
Et c'est une des raisons pour lesquelles 30% des patients avaient abandonné dans l'étude.
Sí, es una de las razones principales de abandono, porque claro, esto sí que se nota, lo de la microalbuminuria no lo notan, pero esto sí.
Alors, à ce stade-ci, que faut-il en penser?
Este punto, ¿qué pensamos?
Et pourquoi, d'abord, est-ce qu'on ne parvient pas dans l'essai numéro 2 et numéro 3 à reproduire ce que l'on avait chez l'animal?
¿Cómo es que no conseguimos reproducir en humanos lo que vimos en animales?
Un modèle animal, c'est jamais parfaitement la maladie humaine.
Los modelos animales no siempre reproducen exactamente la enfermedad humana.
Deuxième chose, quand on regarde les doses de sirolimus et d'everolimus données chez l'animal, proportionnellement beaucoup plus élevées que ce qu'on peut donner en clinique humaine.
La dosis que se dio en animales era muchísimo más alta que la que puede llegar a tolerar un humano, mucho más alta que la que se ha dado en los ensayos.
Tenu du rapport bénéfice-risque qui n'est pas très favorable, donc peu de bénéfices démontrés et quand même des effets secondaires assez importants.
En base a la escasa eficacia y estos efectos secundarios considerables que hay, se sostendría poco darlo al menos de forma sola, aislada.
Ce n'est probablement pas un médicament qu'on va donner dans la polykystose, hein, on ne parle pas d'autres maladies, mais dans la polykystose en monothérapie.
Seguramente no va a ser un tratamiento que se llegue a dar en la polikistosis de forma aislada, sin ningún otro fármaco asociado.
Mais est-ce qu'on peut conclure de ces effets que ça ne marche pas? Je ne suis pas sûr.
Ah, pero esto prueba que no funciona. Pues no está del todo seguro que no funcione.
Et peut-être que ce médicament-là va conserver un avenir en association avec d'autres classes de médicaments. Ça, on verra.
Quizás este fármaco en asociación con otros medicamentos puede que algún día llegue a estar indicado.
Vous voyez que c'est difficile, hein, de juger des décès cliniques. Alors, les analogues de la somatostatine, donc là, ça fonctionne aussi bien dans le rein que dans le foie.
Comme han dicho antes, los análogos de la somatostatina actúan tanto sobre el hígado como el riñón.
Qu'est-ce que ça avait montré chez l'animal, chez rat PCK, qui a une forme de polykystose?
Esto es un modelo animal, a ver qué se ha demostrado con el octeotride, que es un análogo de la somatostatina.
Alors nous allons regarder chaque fois le foie et le rein. D'abord le foie. Et regardez sous l'effet du médicament le volume du foie et ce qui est probablement la conséquence des kystes, c'est-à-dire la fibrose dans le foie.
Podemos ver tanto el volumen del hígado como la fibrosis que disminuye en ratones tratados comparado con los no tratados.
Les rats mâles, les rats femelles. Ici, c'est l'histoire naturelle. Et là, c'est ceux qui ont reçu de l'octreotide.
Arriba vemos la historia natural de la enfermedad en estos ratones sin tratar. Y abajo vemos, así en horizontal, los tratados, estabilizado.
Donc, clairement, ce médicament permet de ralentir la croissance des kystes et de diminuer la fibrose.
Así pues claramente estos fármacos disminuyen el crecimiento de quistes y la fibrosis hepática.
Dans le foie et dans le rein. Eh bien dans le rein, Regardez aussi le volume des kystes rénaux et la fibrose rénale, même figure, même résultat.
Lo mismo para el riñón, tanto volumen renal como fibrosis, la historia natural y tratado abajo.
Est-ce que ça marche en clinique?
¿Esto funciona en humanos?
Nous avons ici aussi trois études. Une toujours du groupe de Bergame, toute petite, 12 patients. Une d'un groupe hollando-belge. Vous voyez ici le nombre de patients qui ont soit une polykystose hépatorénale que vous connaissez, soit une polykystose hépatique pure, qui est une autre maladie. Et ici, le groupe de la Mayo Clinic, ici aussi, des polykystoses hépatorénales, la maladie que nous connaissons, et des polykystoses hépatiques pures.
Tenemos tres grupos, el de Bergamo otra vez, con 12 pacientes, el de un grupo de Holanda y Bélgica, creo que es, que en este hay tanto polykystosis hepatorrenal, o sea, la polykystosis dominante y poliquistosis hepática también. Y en el grupo de la Mayo, 34 con poliquistosis renal autosómica dominante y 8 casos de poliquistosis hepática sin afectación renal. Es otra enfermedad.
Important de noter que les patients ne sont pas les mêmes. Ici, c'est des patients qui n'ont pas un gros foie et qui sont au début de leur maladie et les auteurs s'intéressaient d'abord au rein.
Hay que decir que no son comparables los pacientes. En el primer estudio son pacientes en una fase bastante inicial y el objetivo primario era ver el efecto sobre el riñón.
Tandis qu'ici, ce sont des patients où on s'intéressait d'abord au foie et en particulier, ça c'est l'étude la plus intéressante, les patients avaient été sélectionnés sur la base de gros foies supérieurs à 4 litres et la plupart du temps des foies symptomatiques.
Sí, los otros dos grupos se interesaron primordialmente por el hígado y sobre todo el último, que es el más interesante, por hígados muy grandes, de más de 4 litros. Ver el efecto de este medicamento sobre estas hepatomegalias quísticas.
Chose intéressante, il y a deux analogues différents de la somatostatina, l'octreotide ou le lanreotide. Et vous allez voir que l'effet est le même.
Hay dos análogos de la somatostatina, el octreotide y el lanreotide.
Alors, on va d'abord regarder dans les trois études, le rein. Ici, l'objectif primaire, là, objectif secondaire, puis on regardera le foie.
Vamos a ver primero el riñón y luego el hígado.
Alors, le rein, et on va commencer 1, 2, 3. Puis le foie, on va faire la même chose, 1, 2, 3.
Vamos a mirar el riñón en cada uno de estos estudios y luego el hígado en cada uno de estos estudios.
Alors, voici le volume rénal dans l'étude italienne. Où l'on a ceux qui reçoivent le placebo, ceux qui reçoivent la somatostatine, manifestement, le volume rénal augmente moins sous somatostatine que durant la période placebo.
El volumen renal aumenta menos en pacientes tratados que en pacientes con placebo.
Alors, dans l'étude hollando-belge, le volume rénal augmente sous placebo et stabilisé sous l'anréotide.
En el estudio belga-holandés aumenta en los pacientes tratados con placebo el volumen renal y se mantiene o disminuye algo en los pacientes tratados con lanreotide.
Dans l'étude de la Mayo Clinic, voici le volume rénal qui se trouve augmenté dans le groupe placebo. Il continue à augmenter normalement, tandis que dans le groupe octreotide, il est aussi stabilisé.
En el estudio de la Mayo también vemos que en el grupo tratado con placebo aumenta el volumen renal mientras que se estabiliza en el grupo tratado con octreotide.
Donc retenons que dans les trois études, le volume rénal durant cette courte période initiale se stabilise.
Por lo tanto, en los tres estudios durante este corto periodo inicial se estabiliza el volumen renal.
Et le foie.
Y a ver qué pasa con el hígado.
Alors, voici le foie. Le volume du foie dans la petite étude italienne, sous placebo il ne bouge pas, sous octreotide il diminue.
En el pequeño estudio este italiano, los pacientes tratados con octreotide experimentaron una disminución del volumen del hígado.
Dans l'étude hollando-belge, ici c'est les modifications de volume, ça c'est chaque barre est un patient, ici c'est ceux qui sont sous placebo en clair, sous l'enréotide en noir.
Aquí podemos ver cómo los pacientes con placebo disminuyeron, no, aumentaron el volumen, mientras que se experimentaron más disminuciones de volumen hepático en los pacientes tratados con la enréotide.
Ici on augmente, là le volume diminue. Uh-huh. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de patients sous l'enréotide qui voient leur volume hépatique diminuer que sous placebo.
Muchos más pacientes tratados disminuyen de volumen comparado con los no tratados.
Donc, ça va dans le même sens. Dans l'étude américaine, même expression, c'est le volume du foie. Durant la période placebo, il ne bouge pratiquement pas. Durant la période, chez les patients qui ont de l'octréotide, par contre, 12 mois, diminution de 5%.
Igualmente, en el estudio de la Mayo, hay una disminución de volumen hepático en los pacientes tratados.
Donc,
en 12 meses.
Dans les trois études, il y a une concordance de résultats. Est-ce qu'il y a des effets secondaires maintenant? Oui, il y en a, mais qui sont limités. Et heureusement, c'est un médicament que nous connaissons depuis longtemps en médecine.
Hay efectos secundarios, sí, pero escasos. Es un medicamento que hace muchos años que se utiliza en medicina.
Alors, les effets secondaires sont essentiellement digestifs et limités dans le temps.
Sí, son básicamente efectos secundarios digestivos y limitados en el tiempo.
La plupart des patients ont un peu de diarrhée et des crampes abdominales pendant les premiers jours qui suivent l'injection, car j'ai oublié de vous dire que contrairement aux autres médicaments, c'est un médicament qui se donne en une injection mensuelle.
Sí, esto es una inyección mensual y después de la inyección algunos pacientes experimentan diarreas y algo de dolor abdominal.
Et il n'y a pas beaucoup d'autres effets secondaires, il faut surveiller la glycémie qui augmente de 10%.
No tiene mucho más efecto secundario.
Que concluons-nous aujourd'hui sur base de ces études? Eh bien, moi, en tout cas, encore une fois, c'est mon opinion, je suis convaincu par l'efficacité à court terme des analogues de la somatostatine sur la polykystose hépatique majeure.
Él dice que está convencido sobre la eficacia de los análogos de la somatostatina en el tratamiento de la polikistosis hepática masiva.
Donc je crois, moi je pense qu'on a le droit aujourd'hui d'utiliser ces médicaments-là en usage compassionnel pour les polikistoses hépatiques majeures.
Él cree que actualmente es lícito utilizar estos fármacos como uso compasivo en casos de polikistosis hepática masiva.
Pour la polykystose rénale, eh bien, je pense qu'il faut attendre des essais cliniques plus vastes pour être tout à fait sûr.
Para ver el efecto sobre la función renal, sobre el riñón, hace falta ensayos clínicos más largos de mayor duración para ver realmente si tiene un buen efecto.
Parce que malgré que ces résultats sont encourageants, il reste beaucoup de questions.
Aunque los resultados son optimistas, quedan muchas preguntas por responder.
Quelle est la dose optimale? On est parti pour l'instant avec nos collègues hollandais dans un deuxième essai où on va donner 90 mg de l'enréotide au lieu de 120, par exemple.
Sí, hay que discutir cuál es la dosis ideal con los hepatólogos, igual el espaciamiento de la dosis, etc.
Est-ce que cette réduction du volume hépatique pendant la première année continue pendant la deuxième année? Eh bien, probablement pas. Puisque les chercheurs de la Mayo Clinic vont présenter la semaine prochaine leurs résultats à 2 ans et qu'on voit une stabilisation, ce n'est pas encore publié, mais tu seras à Denver, et plus une réduction, mais ça se stabilise.
Hay que ver hasta qué punto se mantienen estos efectos. El grupo de la Mayo la semana que viene en Denver, en el Congreso Americano de Nefro, presentan un trabajo en el que se ve que después del primer año que ha habido una disminución, se produce una estabilización.
Et il reste une question générale pour tous ces médicaments. Est-ce que quand on a montré qu'on peut faire diminuer le volume kystique, on va à la fin améliorer la fonction rénale et ralentir la progression de l'insuffisance rénale?
Claro, finalmente lo que hay que demostrar, después de hablar de volúmenes, si realmente hay un efecto beneficioso sobre la función del riñón, si retrasamos la insuficiencia renal con este fármaco o no.
Nous l'espérons, et conceptuellement c'est le cas, mais encore faudra-t-il avoir des faits.
Esperamos que sea así, pero claro, hay que demostrarlo con hechos, con los resultados de los ensayos.
Et voilà où on en est maintenant, et on peut vous prédire en tout cas que ça n'est pas fini, puisque, exemple, sont peut-être efficaces dans la polykystose. La metformine, utilisée dans le diabète de type 2, je ne sais pas comment vous l'appelez, le glucophage.
Sí, la hay otros fármacos que podrían servir. La metformina, que es un antidiabético oral que usamos.
Peut-être un médicament utilisé dans des maladies inflammatoires qui sont les anti-TNF.
Sí, en otros tipos de fármacos usados en enfermedades inflamatorias, que son los anti-TNF.
Peut-être des médicaments qui s'opposent à la sécrétion.
Quizás medicamentos que inhiben la secreción, que evitan la secreción.
Donc, il y a encore beaucoup de ressources et de médicaments à tester.
Por lo tanto, hay aún muchos medicamentos para estudiar y analizar.
Voilà. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas, qui ne participent pas à des essais cliniques, qu'est-ce qu'il faut leur recommander? Mais certainement de traiter, ça reste vrai pour tout le monde, efficacement l'hypertension artérielle dès le début.
Por lo tanto, ¿qué podemos ofrecer en este momento que no tenemos tratamientos específicos? Pues tratar de forma enérgica y precoz y eficaz la hipertensión arterial.
Probablement qu'il est bon de boire beaucoup d'eau parce que ça inhibe naturellement, physiologiquement, la vasopressine. C'est un antagoniste, pas puissant, mais un petit antagoniste de la vasopressine.
Probablement beber bastante líquido porque esto es una forma de inhibir de forma natural la hormona antidiurética, la vasopressina.
On a des raisons de penser que des infections kystiques répétées vont altérer la fonction rénale et qu'il faut donc traiter précocement les infections urinaires.
Hay que tratar de forma rápida y eficaz las infecciones, pues esto no hace ningún bien al riñón.
Et il est temps quand même que je termine en répétant alors la phrase de Lejar du 88 que vous pouvez lire.
Esta frase que dijo Lejar en el 1808, optimista, y que quizás ahora sí que empezamos a verla.
Gracias, Roser, d'avoir...